Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, il est évidemment à mes côtés en pleine forme, c'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. D'ailleurs, c'est notre 200e de l'année.
Oui, c'est vrai. Oh, bah, joyeux anniversaire Jimmy.
Eh oui, joyeux anniversaire Mélanie.
200 ans déjà, 200 émissions, super. Allez, au programme aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler d'eczéma. À la veille de la 7e journée nationale contre cette maladie, nous avons décidé de faire un point sur cette pathologie de la peau. Vous verrez qu'il existe plusieurs formes d'eczéma et évidemment plusieurs traitements, mais nous parlerons aussi des soins de cette peau si sensible qu'il est primordial de mettre en place en routine et qui font partie intégrante du traitement de l'eczéma. Pour en parler, nous recevrons le docteur Marie Jachier, elle est dermatologue à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ensuite, comme tous les vendredis, il y a notre chronique Bien chez soi, dans laquelle on va tout vous dire aujourd'hui sur l'eau que l'on consomme au quotidien, eau du robinet ou en bouteille notamment, laquelle privilégier. Le néphrologue Gilbert Deray fera le point avec nous. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique de Catherine Blanc. Aujourd'hui avec elle, il sera question de l'utilisation des sextoys.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer aujourd'hui par cette question d'Anne. On l'écoute.
Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir, en fait, s'il était possible de remplacer un traitement hormonal par du gel lubrifiant. C'est ce que je fais, en fait, depuis plusieurs mois pour éviter de prendre des hormones pour une sécheresse vaginale. Et ça me convient très bien. Je vais savoir si c'est dangereux au long cours. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors Anne, pour vous répondre précisément sur cette question, nous avons interrogé pour vous le docteur Jean-Marc Bobotte, qui est médecin infectiologue à l'Institut Fournier de Paris.
Anne fait partie de ces femmes qui soit ne veulent pas prendre d'hormones, soit ne peuvent pas prendre d'hormones parce qu'elles ont eu un cancer, par exemple, estrogéno-dépendant. Et donc effectivement, on peut utiliser des produits, alors plus que des lubrifiants dont l'action est très courte, il vaut mieux utiliser des produits qui s'appellent des produits hydratants, qui sont des produits généralement à base d'acide hyaluronique, qui sont des gels que l'on peut mettre dans le vagin, soit tous les jours quand on a une sécheresse quotidienne, soit juste avant le rapport sexuel, et là on a un confort beaucoup plus important et surtout les produits hydratants par rapport aux lubrifiants ont une durée de vie beaucoup plus longue et il n'y a aucun problème à utiliser au long cours ce type de produit.
Voilà les conseils précieux du docteur Bobotte au micro de Valentin Piovesan. Jimmy, on va prendre une seconde question, celle-ci elle est pour vous, c'est la question d'Inès, on l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mélanie, alors voilà, depuis peu j'ai adopté un chien et j'ai pris la mauvaise habitude de dormir avec lui la nuit. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est déconseillé ? Merci de me répondre. Bonne journée.
Alors, une question canine, Jimmy, pour vous qui avez l'habitude de dormir avec votre hamster. Est-ce que le principe de dormir avec un chien quand on est adulte, c'est un problème ou pas déjà je sais pas, en ce qui concerne peut-être la qualité du sommeil, un chien, ça bouge, ça ronfle, j'en sais pas.
Oui, c'est ce qu'on appelle dans le jargon médical une FBI, une fausse bonne idée.
Parce que, ils nous inventent des trucs tous les jours, ça existe vraiment le FBI ?
Non, il y a le FBI qui existe, le FBI n'existe pas. Alors, les études ne sont pas toutes d'accord les unes avec les autres, mais il y a une contradiction assez importante, c'est qu'on pourrait bien dormir avec un chien ou avec un chat s'il dort au pied du lit pas dans le lit. Parce que vous l'avez dit, mine de rien, les chiens et les chats ont leur rythme qui est propre. Et un chat, à 5h du matin, dès qu'il fait jour, sa seule envie, c'est d'aller chasser.
Ouais, moi, alors la mienne, la nuit, elle ne dort pas du tout. Hein,
exactement.
Donc elle joue, en fait.
Ils n'ont pas les mêmes rythmes que nous. Et donc, chez un adulte, par exemple, qui aurait un sommeil un peu léger, je vous rappelle que la nuit, vous avez des petits trains du sommeil, qu'entre chaque petit train, vous allez avoir un micro-réveil. Ce micro-réveil, il est imperceptible et vous allez vous rendormir. Eh bien, si vous aviez un chat ou un chien aux alentours qui fait du bruit, qui bouge, et puis ça ronfle, ça pète aussi parfois un chien ou un chat, eh bien, ça va vous réveiller. Et on s'est rendu compte dans une étude que 63% des gens qui dorment au moins 4 nuits par semaine avec leur animal de compagnie se plaignent.
Il y a même des études là-dessus.
Mais oui, se plaignent de troubles du sommeil. Et donc, ce ne serait pas une très bonne idée que de dormir avec son animal de compagnie dans son lit.
Très bien. Et du point de vue de la santé physique, est-ce qu'il y a des contre-indications éventuelles ? Je ne sais pas, peut-être pour des raisons d'hygiène. Un chien, ça va dehors, par exemple.
Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi l'impact psychologique. Il ne faut pas oublier que l'animal, lui, il ne va plus trop savoir où se situer dans la meute familiale et il va se croire en position de dominant. Donc, en termes d'éducation, ça peut poser problème. Et puis, on s'est rendu compte aussi que ça va nuire à la libido. On s'est rendu compte que dans une étude britannique.
Vous avez tout étudié là, c'est incroyable.
Je me suis jamais aussi donné autant à fond. Un tiers des Anglais qui ont des animaux de compagnie se plaignent de troubles
sexuels.
Vous avez fait
votre thèse d'ailleurs sur sommeil et animaux. Hein, c'est ça.
Et donc, mine de rien, il faut faire aussi attention, vous l'avez dit, à l'hygiène et donc s'assurer que le chien ou le chat est bien vacciné, vermifugé. Et puis, utiliser aussi des draps en satin. Puisque le satin. Mais oui, en fait, c'est pour se débarrasser des poils. C'est beaucoup plus simple. Ah, vous avez vu là.
Incroyable, c'est hyper complet, vous me bluffez aujourd'hui, Jimmy. Alors pour les enfants, en revanche, il y a peut-être des avantages, non? Par exemple, les gamins qui ont un peu trop d'anxiété. J'avoue que j'ai pas pris mon chat pour ça, mais depuis qu'elle dort avec mon fils, il dort beaucoup mieux, j'ai remarqué.
Oui, ça peut agir comme un objet de transition,
un doudou,
peu comme un doudou. Mais attention, ouais. Évidemment, l'idéal, c'est quand même que les enfants s'endorment seuls et les apprendre et les éduquer à s'endormir seuls. Donc si jamais ça a marché, pourquoi pas? Mais on ne prend pas un chat, évidemment, pour chat. D'autant plus que, je le dis, sur le long terme, eh bien, le chat ou le chien va perturber le sommeil des enfants. Donc ça peut les aider, mais en particulier les personnes âgées. Donc ça, ça peut être intéressant. Qui souffrent de solitude, ça va être un animal de compagnie.
Il y en a dans les maisons de
retraite,
exactement. Hein,
ouais. Et on sait que les animaux, sont bons pour le cœur puisqu'ils vont vous déstresser.
Et si on regarde du côté des allergies, de l'asthme par exemple. Moi, quand j'étais petite, on m'avait interdit d'avoir des animaux parce que j'étais asthmatique justement. Mais je crois que ça a changé désormais.
Et oui, on s'est rendu compte qu'on vit dans un monde trop hygiéniste et que c'est une des raisons pour laquelle les allergies seraient un peu plus en augmentation. Et dans une étude portant sur 2500 bébés, les enfants qui ont dormi à proximité d'un chien ou d'un chat, exactement. Entre 0 et 3 mois, au moins d'asthme à l'âge de 6 ans. Parce que mine de rien, ils vont être en contact avec des allergènes, des bactéries, et que ce serait plutôt bénéfique. Donc là, il y aurait peut-être une idée, mais évidemment, on ne va pas prendre un chien ou un chat pour ça.
Pour chat. Très bien, merci Jimmy. Si vous aussi voulez nous laisser vos questions santé, bien-être, 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, pas d'hésitation.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est la dermatologue Marie Jachier avec qui nous allons tout vous dire sur l'eczéma. La journée nationale contre cette maladie, c'est demain. Et nous, on vous en parle tout de suite, dès aujourd'hui. C'est dans un instant et c'est sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour ce dossier du jour consacré à l'eczéma. Bonjour docteur Marie Jachier.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Louis, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et donc on va s'intéresser à l'eczéma, je l'ai dit. Et même, il existe plusieurs formes d'eczéma, on va y venir. L'eczéma au sens large, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une définition de l'eczéma?
Alors l'eczéma, c'est une maladie inflammatoire de la peau qui est chronique, c'est-à-dire qu'elle va durer dans le temps en général. Elle se manifeste par des poussées et des périodes plus calmes. Et sur la peau, ça va donner des plaques rouges qui grattent, donc un prurite, et qui vont régulièrement se répéter sur une peau sèche, donc une peau qu'on appelle une xérose cutanée.
Et donc on a une peau plus fragile par définition, hein, c'est ça?
Exactement, voilà, la peau va s'inflammer et va faire régulièrement des poussées inflammatoires avec des lésions qui grattent.
Et si on prend tous les patients, quel que soit le type d'eczéma, ça concerne combien de Français?
Alors finalement c'est une maladie fréquente, on dit plus de 2 millions de Français,
wow.
A priori près de 2,5 millions de Français. Et ça touche à la fois les enfants et les adultes, c'est plus une maladie de l'enfant, hein, c'est plutôt autour de 20% d'enfants de l'âge de moins de 7 ans, mais ça peut toucher également les adultes.
Est-ce que c'est d'ailleurs pas peut-être une des maladies cutanées les plus fréquentes? Parce que bon, il y a l'acné, je crois, mais l'eczéma, ça vient juste derrière, il me semble. Hein.
Tout à fait, exactement. En fait, c'est une des maladies de peau les plus fréquentes. L'acné en premier, l'eczéma ensuite, le psoriasis, pas loin. Mm-hmm. Mais donc vraiment, ça fait partie des maladies fréquentes.
Alors, vous avez dit que ça touchait beaucoup les enfants, mais à partir de quel âge un enfant peut développer de l'eczéma? Pas dès la naissance, il faut attendre quelques mois peut-être?
En effet, en général, l'eczéma, la dermatite atopique, en tout cas, ne commence pas à la naissance, mais après quelques mois, en moyenne vers l'âge de 3 mois, 3 à 6 mois.
Vous avez des 6 petits bébés en consultation, 3 mois ouais.
Bah oui, ça peut commencer très jeune.
Ah ouais.
Et du coup, une fois qu'on fait de l'eczéma dans l'enfance, est-ce que c'est quelque chose que l'enfant va garder toute sa vie? Parce que c'est une des inquiétudes des parents, comme quand on leur dit qu'ils font de l'asthme, tout d'un coup, on a l'impression que le ciel s'abat sur eux.
C'est vrai que c'est une vraie question, mais en fait, dans la grande majorité des cas, l'eczéma va céder, va spontanément partir dans l'enfance ou à l'adolescence, on va dire dans 80% des cas.
Ah oui, quand même, donc c'est rassurant pour les parents. Et à l'inverse, je peux devenir, souffrir d'eczéma tout d'un coup comme ça, à 40 ans par exemple, c'est possible?
Eh bien oui, en fait, ça peut également débuter. À l'âge adulte, à l'adolescence, à l'âge adulte.
Là, c'est pour la vie, du coup, non?
Pas forcément, mais c'est vrai que c'est quand même une maladie chronique, donc qui aura tendance à durer des années. Ça peut même commencer vraiment chez les sujets âgés, au-delà de 60 ans, voire 70-80 ans.
Et du coup, quand on développe de l'eczéma à un âge adulte, est-ce qu'il ne faut pas rechercher une allergie particulière, un eczéma de contact, par exemple? Est-ce qu'on peut développer, je sais pas, une allergie à un bijou ou des choses comme ça?
Exactement, c'est vrai qu'on vérifie toujours s'il n'y a pas un facteur contact, c'est-à-dire un produit qui déclenche la poussée d'eczéma, donc un produit allergisant. Et puis, il faut également, pour un eczéma qui commence à l'âge adulte ou un peu tardivement, éliminer d'autres maladies qui peuvent mimer un eczéma. Des maladies beaucoup plus rares.
Alors, on va revenir sur les principales formes que peut prendre cette maladie. D'abord, ce qu'on appelle, parce que je crois que c'est le plus important, ce qui vous accapare le plus et qui prend le plus de temps en consultation, la dermatite atopique. On parle de quoi précisément là ?
Exactement, la dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique qui est liée à des anomalies de la peau, qu'on dit la barrière cutanée, et à un petit dérèglement du système immunitaire, où il va y avoir une réponse inflammatoire du système immunitaire trop importante. Et c'est cette maladie qui est une maladie chronique, qui évolue par poussée, qui commence en général dans l'enfance et qui peut continuer parfois à l'âge adulte.
Est-ce qu'on voit de plus en plus de dermatite atopique, parce qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'allergiques? Est-ce que c'est la même chose pour l'eczéma? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer?
Exactement, comme on disait tout à l'heure, certainement que la théorie un peu hygiéniste, le fait de vivre dans un monde un peu plus aseptisé, moins d'infections, a déréglé un petit peu le système immunitaire qui n'oriente plus son action contre les infections, mais plutôt contre des, on va dire des allergènes ou des antigènes de l'environnement. Donc le système immunitaire va réagir et la dermatite atopique fait partie de la famille de maladies qu'on appelle l'atopie et qui comprend également l'asthme, la rhinite allergique, oui. Aussi appelée le rhume des foins, la conjonctivite allergique et les allergies alimentaires.
Mais quand j'ai de l'eczéma, je souffre aussi. Enfin, ça arrive, j'ai compris qu'on est les deux, mais on n'est pas forcément asthmatique quand on, quand on souffre d'eczéma.
Forcément. Ça peut être associé, mais pas toujours.
Est-ce que ça veut dire qu'on aurait plutôt intérêt à laisser les enfants gambader? Parce que quand un objet tombe par terre, je ne sais pas, la tétine, on a l'impression qu'elle a été contaminée par le tétanos.
Moi, je la mets dans ma bouche, personnellement.
Ben oui, si un morceau de pain tombe, un morceau de gâteau, on dit oh là là, surtout ne le remets pas dans la bouche. Est-ce qu'on aurait plutôt tendance à devoir laisser les enfants gambader dans la forêt, dans la campagne,
dans la saleté?
Mais oui, est-ce qu'on devrait les laisser un peu plus cracra?
Certainement que ça pourrait jouer, et on en discutait tout à l'heure, mais le fait que les enfants qui vivent, qui ont des fratries, donc on dit les enfants issus de familles nombreuses, donc qui sont plus en contact certainement avec des microbes, exactement.
Ou du papa.
Peut-être font moins de maladies atopiques et c'est la même chose pour les enfants qui vivent dans des milieux, plus ruraux, notamment dans des fermes, à proximité des animaux, etc.
Docteur Jachy, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous. Europe 1. Dans ce rendez-vous, on va rentrer un peu plus dans le concret. On va faire d'abord le point sur les gestes du quotidien importants pour ces patients, des gestes qui font partie du traitement. Comment doivent se laver les patients qui souffrent d'eczéma, particulièrement les enfants? Comment les laver sans décaper leur peau déjà très fragile? On en parle juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, elle est toujours avec nous. Notre invitée du jour, c'est vous, docteur Marie Jachier. Vous êtes dermatologue spécialisée dans l'eczéma à l'hôpital Saint-Louis, à l'assistante publique hôpitaux de Paris. Alors, avant de parler des gestes du quotidien qui font partie complètement du traitement, on va juste balayer ensemble quelques idées reçues sur cette maladie, parce que c'est important. On est à la veille de la journée nationale contre cette pathologie. Il faut en finir avec certaines bêtises. L'eczéma, c'est absolument pas contagieux, d'une part.
Pas du tout. Ce n'est pas contagieux.
Parce qu'ils en souffrent, les patients. Parfois, on les regarde avec leurs plaques et les gens sont un peu dégoûtés.
Ils souffrent beaucoup du regard des autres et les autres ont peur parfois, puisqu'il y a des lésions, c'est rouge, il y a des petites peaux, ça désquame. Mais ce n'est pas une maladie contagieuse.
Et autre idée reçue, ce n'est pas non plus une maladie de personnes pas propres, en fait. Ce n'est pas lié à l'hygiène, parce que quand on voit des plaques, on pense que la personne ne s'est pas lavée, mais peut-être même au contraire, si on se lave trop, peut-être que ça peut déclencher des crises.
Exactement, ce n'est pas du tout lié à l'hygiène et notamment pas à un manque d'hygiène. Et c'est vrai que peut-être des bains trop répétés ou des lavages trop fréquent de la peau peut justement favoriser les poussées d'eczéma.
C'est pas une maladie qui est psychologique non plus, parce que parfois les gens disent « Ah, c'est dans ta tête, arrête de stresser, t'auras plus de plaques », mais ça
alors,
suffit pas.
Non, ce n'est pas une maladie psychologique, ce n'est pas une maladie dans la tête, mais comme on disait, évidemment, certains événements de vie un peu difficiles ou certains événements psychologiques peuvent influencer et éventuellement déclencher des poussées.
Alors si on parle des soins du quotidien, évidemment hors des traitements, quelles recommandations vous donnez notamment aux parents d'enfants qui souffrent d'eczéma? Par exemple, je ne sais pas, le bain, on le fait tous les combien de temps? Avec de l'eau chaude, de l'eau tiède? Qu'est-ce qu'on met comme savon? Est-ce qu'on fait de ça tous les jours? Comment est-ce qu'on peut
Exactement, les conseils qu'on peut donner aux parents d'enfants atopiques, on dit des bains plutôt courts, donc il ne faut pas traîner dans le bain pendant des heures et des heures, eau tiède, ni trop chaud, ni trop froid.
37 quoi, c'est
voilà.
Ça
oui, ouais. Voilà, 37. Ouais. C'est vrai qu'on dit que les bains quotidiens ne sont pas indispensables.
Donc c'est un jour sur deux
Un jour sur deux est tout à fait raisonnable. Les savons, c'est plutôt des savons sans savon. Donc les savons des huiles lavantes par exemple, ou des gels lavants, sans savon et sans parfum. Surtout, les parfums sont souvent des irritants et peuvent déclencher des eczémas de contact. En plus de l'eczéma atopique.
Ce que vous venez de dire pour les petits, les bébés, c'est valable aussi pour les grands. Quand j'ai de l'eczéma, je ne prends pas de bain, je prends plutôt des douches, c'est ça?
Voilà,
et je
exactement.
Me lave de la même façon, c'est quoi les conseils pour les adultes?
Oui, c'est pareil. Alors, plutôt des douches, c'est mieux que les bains, ou alors des bains courts, à température, on va dire, tiède.
L'eau et chaude, puis, vraiment, parce qu'on a eu une question hier, justement, d'un auditeur qui disait dès que je prends ma douche, j'ai des plaques au coude, des plaques au genou. Ça fait penser à de l'eczéma, non?
Exactement. Certaines personnes qui souffrent d'eczéma, parfois, sont aggravées par les les douches ou par l'eau chaude notamment.
Et il dit, je prends des bains brûlants, des douches brûlantes.
Exactement.
Donc c'est ça,
ouais. Il y en a qui disent ça, j'ai besoin, je ne devrais pas vous le dire docteur, j'ai besoin de prendre des douches très chaudes parce que ça me brûle la peau, mais au moins ça me soulage un petit peu. Voilà. Et c'est sûr que ça, ce n'est pas très bon si on peut éviter. Ouais. Donc vraiment des huiles lavantes qui vont avoir également un pouvoir hydratant. Voilà, pour maintenir une hydratation de la peau.
Alors vous avez dit la base de l'eczéma, c'est la sécheresse cutanée. Ça veut donc dire que le début de traitement, c'est l'hydratation. Donc on met de la crème tous les jours, même quand il n'y a pas de plaque. Et on met quoi comme crème d'ailleurs?
Bah oui, on met de la crème tous les jours. Hein. Et ça, c'est vraiment important parce que plus on va lutter contre cette déshydratation, plus on va protéger la peau. Hein, on disait dans l'eczéma, c'est l'épiderme, donc la barrière de la peau qui est altérée. La peau devient en quelque sorte poreuse. Donc les allergènes de l'environnement vont pouvoir pénétrer dans la peau et aller activer le système immunitaire, et l'eau va pouvoir s'évaporer, va pouvoir sortir, et ce qui va entraîner un dessèchement de la peau. Donc protéger la peau avec des crèmes hydratantes va...
C'est de la prévention
restaurer,
presque. Hein,
voilà, ouais. Exactement, c'est de la prévention, ça va restaurer de façon un peu artificielle cette barrière. Cette barrière cutanée, et donc ça va protéger un petit peu la peau. Et les gens qui mettent de la crème hydratante régulièrement font moins de poussées d'eczéma et des poussées moins sévères. Mmh. Donc c'est vraiment la base du traitement. Donc ça veut dire malheureusement mettre de la crème hydratante tous les jours sur tout le corps.
Et oui. Il y a des... Quand on a l'eczéma, vous l'avez dit, ça gratte. Alors c'est difficile parfois de ne pas se gratter. Est-ce que vous avez des conseils de bon grattage, on va dire, qui n'aggraveront pas les choses? Comment on se gratte quand on a de l'eczéma?
Bah, c'est difficile. Maintenant, sont de plus en plus développées justement des crèmes, des topiques ou surtout des pommades. On dit que les pommades, c'est moins irritant. Donc, mettre de la pommade, ça permet de soulager. Hein, nos patients atopiques ont des crèmes hydratantes dans leur sac à main et en mettent très régulièrement. Ouais. Au lieu de se gratter, hop, un petit coup de pommade ou de crème ou d'un baume hydratant, ça soulage. Voilà.
Et du côté de l'alimentation, on entend parfois des régimes anti-inflammatoires. Est-ce que vous avez un recul de ça?
Il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques qui le prouvent. Mais c'est vrai qu'on conseille plutôt aux gens atopiques d'éviter de faire des évictions et des régimes restrictifs à tout va, puisque finalement, ça aboutit à des carences et pas tellement d'amélioration de la DA, de la dermatite atopique, malheureusement. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup d'études, en tout cas, qui prouvent ça.
Pas d'études sur les kebabs, pour savoir si c'est... Parce que c'est ma grande passion.
Non, non, non. Bon. Non, non, je vous avais pas parlé de kebabs.
Tu vas manger. Allez, docteur Jachy, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant, et là nous allons vraiment passer aux traitements médicaux de l'eczéma, car oui, on a désormais un arsenal thérapeutique de plus en plus diversifié pour soulager les patients, y compris de tout nouveaux traitements arrivés sur le marché depuis peu. On va tout vous détailler, restez avec nous sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, elle nous accompagne toujours cet après-midi, c'est vous docteur Marie Jachier. Je rappelle que vous êtes dermatologue à l'hôpital Saint-Louis, spécialisée dans l'eczéma. Alors vous êtes avec nous parce que demain c'est la journée nationale contre l'eczéma, et donc on fait un éclairage cet après-midi sur cette maladie. On dit maladie chronique, mais en réalité ça ne veut pas systématiquement dire que les patients sont pleins de plaques tout le temps, parce qu'on dit chronique, on a l'impression qu'ils sont tout le temps comme ça. Non, vous disiez ça évolue par poussée, c'est quoi? Ça veut dire quoi être poussée?
Exactement, ça veut dire qu'il va y avoir des moments où l'eczéma va être actif, c'est-à-dire des plaques rouges qui grattent, et des moments où l'eczéma va se calmer. Donc la peau sera sèche régulièrement, mais il y aura moins d'inflammation, donc moins de rougeur et moins de démangeaison.
Alors quand il y a une poussée inflammatoire très importante, ou pas forcément très importante d'ailleurs, vous allez peut-être nous le dire, eh bien, le traitement de base de référence, c'est les corticoïdes sous forme de crème. Comment ça marche?
Exactement, les crèmes à la cortisone, aussi appelées dermocorticoïdes, c'est le traitement de première intention, c'est le traitement de référence, puisque ça va calmer l'inflammation. On conseille de les appliquer dès qu'une plaque d'eczéma apparaît, donc ne pas attendre plusieurs jours que ça s'installe, puisque plus on va traiter tôt, plus la plaque va partir vite. Et donc, on applique les dermocorticoïdes, ces crèmes à la cortisone, dès qu'une plaque rouge apparaît, une fois par jour, jusqu'à disparition des rougeurs et des démangeaisons.
Alors, les patients ont parfois une corticophobie. En général, on a souvent des questions dans ce sens dans l'émission. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'eczéma? Parce que là, vous leur dites, bon, ben, c'est des corticoïdes qu'on va vous donner. Ils ont peur parce qu'on entend parfois parler de risques à long terme avec la cortisone, les corticoïdes. C'est pas la même chose avec ce qui est cutané, enfin, dermocorticoïdes, c'est différent?
C'est vrai que la corticophobie, c'est fréquent de la part des patients, de la part également des pharmaciens et de certains médecins ou dermatologues. Tout est une question de quantité et de dosage. C'est comme avec de nombreux médicaments. Les dermocorticoïdes sont des médicaments, mais sous forme de crème. Donc évidemment, il faut respecter les doses. Après, les quantités varient en fonction de la sévérité et de l'étendue de l'eczéma. Mais voilà, l'idée, c'est, on va dire, des tubes habituels de 30 grammes. Il ne faut pas dépasser 3 à 4 tubes par mois en moyenne. Donc tout est une question de dosage. Évidemment, à très forte dose et de façon prolongée, il pourrait y avoir un certain passage interne, qu'on appelle un passage systémique, qui pourrait donner lieu à quelques effets secondaires.
Mais en respectant bien les dosages,
en respectant prend bien les doses, c'est comme tous les traitements.
Il n'y a pas trop de risques.
Il n'y a pas trop de risques.
Est-ce que la photothérapie dans l'eczéma pourrait être utile, comme dans le psoriasis, on peut utiliser des UV? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça se fait d'ailleurs en pratique?
Exactement, la photothérapie est un des traitements proposés pour la dermatite atopique. C'est en fait mettre en contact le patient avec des rayons UV, UVA et ou UVB. Et les rayons UV à petite dose ont une action anti-inflammatoire sur la peau. Et donc peuvent être bénéfiques pour l'eczéma, pour également le psoriasis ou d'autres maladies inflammatoires de la peau.
Et puis il y a des traitements nouveaux qui sont là et d'autres qui vont même arriver dans la famille, notamment des immunosuppresseurs. Ça fonctionne bien ça? C'est quoi le principe?
Alors c'est vrai, les immunosuppresseurs sont des traitements qu'on a l'habitude d'utiliser depuis longtemps. Il y a d'autres traitements nouveaux dont on va parler parce que c'est vraiment, il y a une révolution thérapeutique un petit peu dans la dermatite atopique. Les immunosuppresseurs vont calmer l'inflammation et calmer le système immunitaire de façon un peu globale, mais ne vont pas avoir une action très ciblée sur l'eczéma. Ils sont notamment utilisés dans d'autres maladies inflammatoires. Donc ça, c'est ce qu'on utilisait un peu avant. Enfin. Mmh.
Et du coup, ces traitements, on les donne, c'est toute la vie ou c'est juste pendant les périodes de poussée ou...
Eh bien, ça dépend. C'est vrai qu'en général, les patients qui bénéficient de ces traitements immunosuppresseurs, immunomodulateurs ou plus récents, c'est ceux qui ont des formes chroniques avec des poussées très fréquentes. Ouais. Donc, il est possible d'utiliser de façon séquentielle des traitements lors des poussées, mais en général, c'est plutôt un traitement de plusieurs mois, voire plusieurs années, histoire de vraiment calmer l'eczéma.
Alors la recherche avance toujours, vous l'avez dit, dans cette pathologie, avec notamment donc, depuis 2 ans l'arrivée de biothérapie. Alors là, c'est quoi? Ça se donne sous quelle forme et c'est pour quel type de patient?
Exactement, ça c'est formidable. Donc les biothérapies sont des traitements qui vont aller cibler les protéines de l'inflammation.
C'est des piqûres, hein, c'est des injections.
Exactement,
là.
Ça se fait en injection et ça va cibler 2 protéines de l'inflammation qui sont... très exprimé de façon très importante dans l'eczéma. Donc ça va vraiment calmer les démangeaisons, les rougeurs, les plaques d'eczéma sur une durée très prolongée.
Est-ce qu'à terme, on peut imaginer un traitement pour guérir de l'eczéma ou de la dermatite atopique ou des allergies d'une façon plus large?
On espère évidemment. C'est vrai que pour le moment, la plupart des traitements et même ces nouveaux traitements sont plutôt suspensifs, c'est-à-dire tant qu'on les prend, ça améliore l'eczéma. Ça l'améliore parfois de façon extrêmement conséquente. Mais si on arrête ces traitements dans les formes d'eczéma très chronique, l'eczéma peut récidiver. Mais évidemment, on espère pouvoir trouver un jour un traitement un peu définitif.
On a vu quand même, cependant, l'arsenal thérapeutique, il est assez immense quand même pour ces patients. Il y a beaucoup de choses à essayer. Si les premiers ne marchent pas, il y a plusieurs lignes de traitement, comme on dit. Avec tout ce dont vous disposez, finalement, vous arrivez à traiter tous les eczémas. 100% des patients peuvent espérer trouver une solution.
En tout cas, je pense que maintenant et depuis quelques années, grâce aux nouveaux traitements qui apparaissent, je pense qu'on peut vraiment trouver des solutions. Donc, il ne faut pas hésiter à les consulter. Déjà un médecin traitant, un dermatologue et éventuellement un dermatologue à l'hôpital pour bénéficier de ces traitements.
Merci beaucoup docteur Jachier d'avoir répondu à nos questions et je rappelle donc que demain c'est la journée nationale de mobilisation autour de cette maladie et qu'à cette occasion l'Association française de l'eczéma organise une journée spéciale d'information 100% digitale et gratuite avec des conférences, des témoignages patients et même des ateliers pratiques. Alors pour vous inscrire, il faut aller sur associationeczema.fr. Voilà, merci encore docteur Jachier.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique du vendredi bien chez soi consacrée aujourd'hui à l'eau que l'on boit. Faut-il opter pour celle du robinet ou préférer notamment l'eau en bouteille? Quid des carafes filtrantes? On va vous donner tous nos meilleurs conseils. Et pour cela, le néphrologue Gilbert Deray sera en ligne avec nous. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
Votre émission Santé Bien-être sans rendez-vous tous les jours de 15h à 16h. À présent, notre chronique Les Bobos du quotidien avec un éclairage cet après-midi sur l'eau que nous consommons au quotidien pour nous hydrater correctement. Et vous justement, faites-vous attention à sa qualité? Préférez-vous l'eau du robinet ou l'eau en bouteille? Que pensez-vous des carafes filtrantes qu'on voit un peu partout dans le commerce? On va faire le point juste après avoir écouté le micro-trottoir de notre reporter Barbara Silvera Sonigo.
L'eau en bouteille, c'est une eau de source.
Il n'y a pas du coup de calcaire, mais il y a le plastique qui part.
L'eau du robinet, je vois ça comme une eau qui est nettoyée.
C'est l'eau recyclée, retraitée chimiquement. Il n'y a pas de choses négatives pour la santé, quoi. Donc c'est parfaitement potable.
On n'a pas les mêmes apports en fer, en magnésium, en sel que dans l'eau en bouteille.
Le mieux, j'imagine, c'est de boire l'eau dans la petite rivière, dans les montagnes.
Je pense que ce serait de varier. Parce que comme ça, on a un petit peu de minéraux avec les autres sources, mais pas toujours les mêmes.
L'eau du robinet filtrée peut être meilleure pour nous, pour notre système immunitaire.
On filtre l'eau parce que on ne sait pas s'il y a du plomb.
Le filtre, il enlève toutes les petites impuretés. Peut-être des résidus de terre, de calcaire surtout.
Alors, pour nous aider à y voir plus clair sur l'eau que nous buvons tous au quotidien et ses bienfaits pour notre santé, nous accueillons en ligne le professeur Gilbert Deray. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, professeur Deray, on va d'abord reprendre un petit peu la base ensemble. Hein. Un être humain, un adulte en bonne santé, on va dire, il doit avoir quelle quantité d'eau par jour pour faire bien?
Alors d'abord, on va rappeler que l'eau, c'est un élément vital, hein, parce que notre corps est composé de 60 à 70% d'eau. C'est considérable. Ce qui d'ailleurs explique pourquoi on peut jeûner pendant 40 jours sans mourir, mais sans eau, vous ne pouvez pas vivre plus de 4 jours. Donc l'eau est tout à fait indispensable à la vie. Et on va dire que les apports quotidiens moyens, c'est de l'ordre de 1,5 litre.
Donc 1,5 litre simplement, c'est finalement très peu. Alors, autre question, professeur, qu'on peut se poser souvent pour notre consommation quotidienne, pour notre santé, quel est le mieux, de l'eau du robinet ou celle en bouteille?
Bien, très clairement, l'eau du robinet, parce qu'en fait, l'eau du robinet, il faut savoir que c'est l'aliment le plus contrôlé au monde. Et que donc, dans l'eau du robinet, on aura enlevé justement toutes les impuretés, toutes les bactéries, et que l'eau en bouteille n'a strictement aucun intérêt sur le plan de la santé, ça ne vous fera pas maigrir, et ça n'apporte rien de particulier par rapport à l'eau du robinet.
Pourtant, les vendeurs, on va dire, d'eau en bouteille nous disent « Ah, elle est super, elle est pleine de plus de magnésium, plus de machin, plus de trucs. » En fait, il n'y a pas de plus-value, selon vous.
Alors, voilà comment ça se présente. La première, c'est que l'eau en bouteille, la majorité d'ailleurs des eaux minérales en bouteille, n'ont aucun minéraux. Hein, et certaines ont des minéraux. Alors, vous pouvez avoir dedans du magnésium, effectivement, vous pouvez avoir du calcium, vous pouvez avoir des bicarbonates, vous pouvez avoir du sel. On va déjà évacuer le sel, parce que c'est pas très bon pour la santé. Donc, toutes celles qui sont très riches en sel, on les élimine.
D'accord.
On avait quelques-unes qu'on vende beaucoup pour le magnésium. Mais quel est l'intérêt d'acheter une eau minérale, de la payer 300 fois le prix de l'eau du robinet, alors qu'avec une petite plâtrée d'épinards, vous aurez plus de magnésium que dans votre litre de l'eau en bouteille que vous venez de boire, sachant en plus que dans vos épinards, vous aurez beaucoup d'autres choses, comme du fer, par exemple. Et donc, les minéraux que vous apporterez cette eau en bouteille, il n'y a aucun intérêt, ils sont dans votre alimentation. Le gros inconvénient de l'eau en bouteille, c'est le plastique. D'abord parce que on considère qu'il y a à peu près 90 milliards de bouteilles en plastique qui sont fabriquées chaque année pour l'eau. Ça veut dire 90 milliards de bouteilles qui se retrouvent dans la nature. Or, il faut 500 ans pour dégrader une bouteille en plastique. Et le plastique, c'est le déchet le plus important à l'heure actuelle. C'est ça qui va détruire notre planète. Et dans l'eau du robinet, à l'inverse, vous avez quoi? Vous avez une eau qui est très propre, vous avez du calcium, à peu près 80 mg par litre en moyenne. Calcium qui est tout à fait recommandé pour la santé. Le seul inconvénient que les gens en général n'aiment pas, c'est ce goût de chlore.
Oui.
Il y a environ une goutte de chlore pour 200 à 300 litres d'eau, hein, donc c'est vraiment très peu. Il est là pour justement éviter qu'il y ait des bactéries. Et si vous ne l'aimez pas, eh bien vous mettez votre eau du robinet une heure au frigo et il n'y a plus de goutte de chlore.
Bon, mais en plus, on a plein de conseils pratiques. Alors bon, les carafes filtrantes, on vous rappellera une prochaine fois pour en parler. On n'a plus de temps. Merci beaucoup, professeur Deray, d'avoir été en ligne avec nous pour cet éclairage sur l'eau. J'en profite pour signaler votre excellent livre dans lequel il est question notamment de l'eau, Les pouvoirs extraordinaires du Rhin, paru chez Fayard. Merci encore, professeur.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, on s'en rendez-vous de retour, bien sûr, avec la chronique sexo de Catherine Blanc. La sexo dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et c'est au tour de Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris, de venir avec nous pour sa chronique. Alors Catherine, aujourd'hui, on va finir la semaine avec une question de Victoria. On l'écoute.
Bonjour Catherine. Alors voilà, moi j'ai jamais utilisé de sextoy. J'entends beaucoup parler d'un aspirateur clitoridien. Je comprends pas du tout comment ça marche. Pour moi, les orgasmes étaient vaginaux. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ça en détail? Merci beaucoup, bonne journée.
Bon, Catherine, alors je ne sais pas si vous êtes une spécialiste de sextoys. Ah. Non, pas forcément. En tout cas, techniquement, j'imagine que vous les connaissez pas tous.
Non, j'ai oublié mon catalogue.
Voilà, c'est ça. On n'est pas vendeuse.
Avant de venir ici, voilà. Mais je suis ravie qu'elle ait donc une connaissance. Victoria voilà. Est formidable.
Bon, de toute façon, dans les sextoys, il y en a pour tous les goûts. Tous les goûts. Voilà, c'est quoi la différence? Moi, j'en avais jamais entendu parler, hein, pour tout vous dire, de cet aspirateur. Non. Le seul que je connaisse, moi, c'est celui que je passe chez moi dans mon salon pour la poussière. L'aspirateur, donc, clitoridien, vaginal.
Sans le connaître, ouais. À la rigueur, on s'en moque un peu, ouais. Mais sans le connaître, on peut se dire que les sextoys vont rejouer à peu près tout ce que nous serions capables de faire.
Qu'un homme ou une femme pourrait nous faire.
Ouais. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut évidemment, bien sûr, lécher, sucer, téter.
Aspirer.
Et donc téter, c'est aspirer. Donc que tout d'un coup, on retrouve cela par un biais mécanique, ce qui permet de faire fi de l'autre pour le faire soi-même, on peut tout à fait le comprendre. Maintenant, évidemment, il faut savoir qu'un clitoris est sensible, il y a des moments,
jamais je rentre un aspirateur, ça fait peur, je trouve. Mais bon.
Ah, mais vous savez, rentrer un aspirateur, c'est pas.
Non, pas rentrer un aspirateur.
Non, mais c'est pour le clitoris, donc ça rentre pas puisque ça reste à l'extérieur.
Donc c'est censé mimer la bouche, c'est ça, comme si on
aspirait. Oui, c'est ça.
Comme une tête, quoi. J'ai l'impression.
Est-ce que c'est agréable?
Ah ben, je crois que c'est pas Catherine.
Alors, j'ai pas testé l'aspirateur. Je suis désolée. Un clitoris. Excusez-moi.
Parce que ça a l'air très technique.
Non, mais peut-être que vos patients vont en parler.
Non, pas du tout. Heureusement que je viens à Europe 1, ça m'upgrade.
Ça vous ouvre un peu les...
Ouais, exactement.
C'est quoi le bon premier sextoy à avoir pour une femme? Est-ce qu'il faut commencer à garder
une plume?
Ah oui, vous l'avez dit, c'est vrai.
Vous aviez parlé.
Bah oui, bah, j'adore. Je pense que le départ, c'est tout ce qui est en douceur, tout ce qui est en et ce qui va du coup titiller et suggérer et à la fois les sensations et à la fois l'imaginaire. Si vous avez sur votre bras, vous fermez les yeux et vous avez une petite bête qui grimpe tout doucement, votre imaginaire va beaucoup plus loin que si vous avez une grosse paluche qui se pose sur votre bras. Votre imaginaire s'arrête à la grosse paluche parce que comme c'est un peu intrusif, vous êtes tout de suite dans l'accueil de ce mouvement un peu sec. Alors que la petite plume ou la petite bestiole qui monte sous votre bras vous fait imaginer des choses délicieuses ou effrayantes, le cas échéant, mais en tout cas, ça ouvre beaucoup plus votre imaginaire. Donc là, le petit aspirateur.
Bon, bah, alors, l'aspirateur, je pense qu'on même on va s'arrêter là parce qu'on ne le connaît pas, hein, cet objet, nouveau.
Non, mais ce que je veux dire, on peut se dire que ne nous effrayons pas du sujet. D'ailleurs, ce n'est pas un aspirateur comme celui que vous avez, Mélanie Chéron.
Non.
Mais c'est évidemment, ça raconte le besoin de téter, de succion. Donc ça informe sur le fait que quand on fait un cunnilingus, ce peut être des gestes que l'on peut faire. Encore une fois, un cunnilingus, un clitoris est extrêmement sensible. Donc dans la mesure où il est sensible, il y a des moments où ce genre de choses pourraient être très agréables et à d'autres moments absolument insupportables.
Mais elle pose la question, les orgasmes ne sont pas vaginaux. Elle croyait en fait, c'est ça, là elle découvre en fait aussi la possibilité d'avoir des orgasmes clitoridiens.
C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, ce clitoris a une vie en propre et d'ailleurs, il participe de tous les ressentis au niveau vaginal. On a beaucoup scindé les choses comme si on avait deux organes, on a un seul et même sexe, qui est d'une grande complexité.
Et le clitoris a des racines
qui vont tout le long justement du vagin et que donc la stimulation vaginale est aussi une stimulation clitoridienne par voie interne du corps du clitoris, mais pas du gland du clitoris. Là, il s'agit d'un sextoy qui stimule le gland du clitoris et peut-être a-t-elle envie de le découvrir à cette occasion. Donc, welcome, chacun fait ce qu'il veut, comme vous le disiez très justement.
Et mieux vaut acheter quoi, un sextoy électrique ou manuel? Parce qu'il y a peut-être un risque d'électrocution.
Non, je ne crois pas que ça se branche.
C'est quoi, c'est...
Non, c'était notre chanteur.
Mais du coup, parce qu'en fait, le raccourci qu'on peut faire, c'est qu'une femme, pour se masturber, a forcément besoin d'un sextoy. On peut se masturber sans sextoy, d'ailleurs.
Bien sûr. Toute la difficulté, c'est que quand on se masturbe sans sextoy, on se masturbe donc avec sa main, et sa main oblige à des mouvements, tout en étant abandonné par ailleurs. Alors
comme
que le sextoy.
Les hommes, non, on se masturbe avec la main, je crois.
Oui,
il y a des aspirateurs, je crois.
Non, mais c'est souvent dans cette envie de s'abandonner, il y a une envie de passivité que la main interdit d'une certaine manière et le sextoy mécanique permet justement un mouvement indépendant de soi. Après, les trucs qui sont électriques, enfin qui sont mouvants, font du bruit, alors ça vous sort en termes d'imaginaire. D'autres, enfin, bon, chacun fait ce qu'il veut en clair. Et pour ce qui est du catalogue de meilleurs sextoys, je n'en sais rien.
Elle vous en glissera un exemplaire à la fin de l'émission, Jimmy.
À vous de voir en fonction de votre imaginaire et de votre désir et de votre besoin.
Merci beaucoup, Catherine. Merci, Jimmy. Merci à tous les deux. Comme toujours, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.
Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. Je vous souhaite un bon week-end. En attendant, restez bien avec nous. C'est Historiquement Vôtre avec Mathieu Noël et Stéphane Bern. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie. Bonjour, vous. Vous, Mélanie, vous êtes une sacrée langue de vipère, c'est ce qu'on dit dans la rédaction.
Ah oui, mais justement, cette émission vous est dédiée ainsi qu'à vous, Mathieu. Oh on va commencer avec les frères Goncourt, qui ont donné leur nom à un prix, mais qui surtout, ont publié un journal avec plein d'horreurs. C'est comme Truman Capote, l'écrivain américain de Breakfast at Tiffany's, mais lui aussi, il avait la plume assassine. Et vous avez choisi qui comme langue de vipère?
Des langues de vipère qui vivent encore, même si leur petite pochade humoristique n'existe plus, c'est Catherine et Liliane. Elles, c'était pour de faux qu'elles étaient méchantes. Et on adorait ça.
Bah moi, je dis Stéphane et Mathieu, peut-être qu'aussi vous êtes un petit peu langue de vipère. Alors, on va rester, bien sûr, vous écouter. Et vous aussi, restez sur Europe 1. Hein.